Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Marche,
ouais.
Allez.
Yo les gars, ça va plus trop aller parce que là, je vais m'occuper de vous. Là. C'est parti.
C'est parti Kylian. Il est temps enfin de lâcher la manette de jeu sur FIFA 21 et de chausser les crampons. La Ligue des Champions reprend ses droits. En ce mardi 20 octobre 2020, le PSG affronte Manchester United. Le dernier match entre les deux équipes n'avait pas laissé de grands souvenirs aux fans du club parisien. Mais en 50 ans, le club en a vu d'autres, des bons et des mauvais. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et on poursuit dans cet épisode la folle histoire du PSG, un roman inachevé. Forcément, comme ça, ça fait beaucoup plus sérieux. La vie d'un club de foot est souvent constellée de victoires, mais aussi de désillusions, de défaites héroïques et d'autres dont on aimerait ne pas se souvenir. Avant la fameuse remontada barcelonaise en 2017, le PSG avait déjà été humilié 20 ans plus tôt par la Juventus en finale de la Supercoupe. 6 buts à 1 à domicile au Parc, moqué ici par les guignols de Canal+, avec les marionnettes de Luis Fernandez et Michel Denisot, le patron du club.
Votre réaction à cette défaite, Luis ?
Encore ?
Oui, bon, bah, Luis, ça va, hein ? Luis, vous étiez au Parc hier ?
Non, j'étais pas invité ! Mais je t'en veux pas, Michel ! Oh, je me suis bien marré quand même !
Canal+ venait à peine de passer de 34 à 51% du capital, avant d'en devenir propriétaire à quasiment 100% en 2001. L'entreprise peut se targuer d'avoir remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1996, mais depuis les trophées se sont fait rares, et David Barou le racontait, les pertes se sont accumulées. Au début des années 2000, le club est donc à vendre.
Pour ceux qui pourront se le payer, attention, le prix, remettez-moi 10 euros seulement, 7-8 personnes, pas plus, 1, 2, 3, 4, allez, je sers les personnes intéressées.
Pas forcément à moitié prix. David Barou, vous êtes rédacteur en chef aux Échos, vous nous avez raconté hier dans la story l'épopée du PSG jusqu'à l'ère Canal+, la chaîne cryptée range les ballons et ses rêves de gloire footballistique. David, est-ce que les candidats se bousculent au portillon ?
Ce que raconte Bertrand Méheux, c'est qu'il y avait pas mal de candidats, mais lui, il voulait quand même un candidat relativement sérieux, parce que la logique de feuilleton dont je vous parlais tout à l'heure, il fallait qu'elle perdure, c'est-à-dire qu'il fallait un repreneur qui soit capable de faire en sorte que le PSG continue. Il fallait pas que le PSG s'écroule. Donc, il voulait un candidat sérieux. Et là, il n'y avait pas tant de monde que ça. Acheter l'équipe, c'était sans doute pas très cher, hein, quelques dizaines de millions d'euros. Le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, il faut entretenir l'équipe. Et ça, eh ben, ça coûte plus cher. Donc, il fallait un candidat sérieux. Il en manque. Il y en avait certains qui, finalement, vont au dernier moment renoncer. On sait que l'émir du Qatar, enfin, un des fils de l'émir du Qatar de l'époque se penche sur le dossier. Ça fait un peu grincer des dents à l'époque. Il y a des déclarations malheureuses. Donc finalement, l'émir du Qatar dit à ses enfants, c'est peut-être pas le moment d'investir dans ce pays où on n'est pas les bienvenus. Et donc, il n'y a pas vraiment de solution. Celle qui va émerger, c'est celle de Colony Capital, que personne ne connaît en France à l'époque. C'est un fonds américain, des gens spécialisés plutôt dans l'investissement, dans l'immobilier. Ils sont actionnaires de groupes comme Accor, les hôtels Accor. Et eux avaient travaillé sur un dossier avec des partenaires en se disant qu'il y avait peut-être une opération immobilière à faire. Sébastien Bazin, qui va finir par devenir président du PSG, qui est aujourd'hui le patron du groupe Accor, qui était à l'époque à la tête du groupe Colony Capital en Europe. envisageait une opération immobilière en disant on peut peut-être faire une galerie commerciale autour du Parc des Princes, on pourra peut-être un jour, ce qui est le rêve de plein d'équipes, privatiser le stade qui appartient à la mairie de Paris, sachant que le Parc des Princes, son histoire s'est toujours conjuguée avec celle du PSG. Hein. C'est un stade qui a été construit à la même époque que la montée en puissance du PSG. Voilà. Donc il y avait cette opération. Et quand, d'un seul coup, il se rend compte que les gens avec qui il pouvait potentiellement s'associer disparaissent, quand il se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'autres candidats, il va un peu dans l'urgence monter un tour de table. Il va faire rentrer Morgan Stanley, une banque américaine qui avait travaillé avec d'autres actionnaires potentiels. Il va faire venir Walter Butler, Butler Capital, qui est un financier franco-brésilien qui adore le foot et qui adore les affaires. Voilà. Et il va monter un tour de table et ils se disent finalement, on rachète ce club peut-être pour une vingtaine de millions d'euros, ce qu'on nous dit. Et il se dit, franchement, en mettant aussi peu d'argent au départ, on est sûr de s'en sortir. L'histoire va lui prouver qu'effectivement, le premier argent qu'on dépense en achetant, ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est investir sur la durée. Et là, Sébastien Bazin se dit, il faut faire attention. C'est-à-dire que si le foot devient une passion au lieu d'un business, si on considère que c'est une espèce de danseuse et qu'on peut dépenser sans compter, alors on va dépenser sans compter. Et dans le foot, comme il y a l'aléa sportif, il ne suffit pas de dépenser pour être sûr de gagner. Il pense qu'avec le budget qu'ils mettent sur la table, qui est l'équivalent du deuxième ou troisième budget français, ils seront toujours dans le top 5. À l'époque du PSG Colony Capital, je crois que c'est en 2008, le club échappe à la relégation lors d'un dernier match avec un but miracle pratiquement à la dernière minute. Hein. Donc, ça va être des périodes, des années de crise. Il y a tous les problèmes avec les violences, avec une partie des supporters, des ultras qui ne sont pas des ultra-supporters, mais des ultra-violents. Et Colony Capital va s'épuiser en quelque sorte et ils font attention, Sébastien Bazin qui va racheter tous ses partenaires minoritaires fait attention à ne pas perdre la raison. Quoi. Donc, il investira mais pas sans compter et donc du coup le club restera une équipe qui n'a pas les moyens de briller dans un football qui a changé de dimension puisqu'on est après l'arrêt Bosman, on est à le retour des Anglais sur le marché européen du football. Donc, il y a de plus en plus d'argent, les chaînes de télé dépensent de plus en plus, il y a de plus en plus de moyens et le PSG à cette époque, et aussi fragilisé par la crise d'un Canal+, qui a moins de moyens pour investir dans le football. Le football français perd un peu en intensité à ce moment-là, au moment où il y a de plus en plus d'argent qui s'injecte dans le foot. Et ça va être un des problèmes du PSG.
Quel souvenir, Sébastien Bazin, que vous avez rencontré, garde-t-il de cette époque ?
Bon, je crois qu'il garde quand même des bons souvenirs, mais il y en a aussi quelques mauvais. Quoi. Il dit qu'il n'a jamais reçu autant de menaces de mort et de cocktails Molotov qu'à l'époque où il était patron du PSG. Il dit que le PSG, c'était, je crois, 2% des investissements de Colony Capital, mais c'était plus de 50% de son temps le soir et le week-end et 80% des emmerdes. Quoi. Donc, c'est à la fois... le PSG, par son statut d'équipe phare, de seule équipe de la capitale, c'est à la fois une équipe que tout le monde aime, mais que tout le monde déteste. On adore voir perdre le PSG en France. On adore, quand on vient jouer à Paris, plein d'équipes. Hein, quand on va se déplacer pour aller jouer ailleurs, on ne donne pas tout ce qu'on a. Quand on vient jouer contre Paris, on donne tout ce qu'on a. Et donc, du coup, ça rendait la vie compliquée pour le PSG.
Alors, Sébastien Bazin et Colony ont pris le contrôle du PSG, mais j'ai découvert quelque chose, moi, où je ne m'en souvenais plus en lisant votre article dans Les Échos week-end. C'est Robert Louis Dreyfus, à un moment, était intéressé par le PSG. Il était alors patron de Marseille.
Oui, alors moi, je ne le savais pas. C'est Michel Denisot, patron mythique du PSG flamboyant des années 90, qui me raconte ça. Il a été contacté à un moment, alors je ne me souviens plus à quelle époque exactement, quand le PSG est en situation difficile. Robert Louis Dreyfus se demande s'il n'y a pas une opération à faire et il contacte Michel Denisot en lui disant « Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait racheter le club ?» Denisot dit « Peut-être. » Mais Robert Louis Dreyfus lui dit « Mais je fixe une condition qui est que tu viennes bosser pour moi. Je veux que tu sois à nouveau le président du PSG. Si tu ne viens pas, je ne le fais pas. » Dis-moi combien tu gagnes aujourd'hui, dis-moi quel est ton prix, je le double et tu viens. Et Michel Denisot raconte que non, il avait promis à sa famille, à son épouse, qu'il ne redirigerait plus jamais le PSG. Il garde un attachement dans le foot, hein, il est encore à la Ligue aujourd'hui. Il a été président et peut-être qu'il est encore président aujourd'hui de la Berrichonne, le club de Châteauroux. C'est un passionné de foot. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, quoi, quand on dirige le PSG, on se prend des menaces de mort, on se fait insulter, on vit une violence et une tension très très forte. Et je crois qu'il avait promis à sa famille qu'il ne reviendrait pas. Et donc, il dit à Robert Louis Dreyfus, non, c'est bon, j'ai déjà signé, j'adore ce club, mais je ne vais pas foutre en l'air ma santé une deuxième fois.
Oui, écoutez, je présente monsieur Nasser Al-Khelaïfi, qui pourra répondre à vos questions en anglais, si vous voulez qu'il vous réponde directement.
Nasser Al-Khelaïfi, 37 ans, est le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain. Ami personnel du prince héritier le Cheikh Al Thani, il est devenu président de la télévision Al Jazeera Sport.
2011, c'est l'arrivée du Qatar, comme on l'entend sur BFM à l'époque. Le PSG change une nouvelle fois de dimension.
Ah ouais, là, on change complètement de catégorie, quoi. Il y avait eu, en gros, c'est Alain Cazac qui me dit ça, il y avait eu l'enfance à l'époque, Echter et Borrelli. Le PSG était devenu un adolescent sympathique, un peu fougueux à l'époque de Canal, un adolescent un peu en crise, il faut le reconnaître, à l'époque de Colony. Et là, avec le Qatar en 2011, ça devient un adulte, quoi. C'est-à-dire que le club change totalement de dimension. Alors, le malheur, entre guillemets, pour les supporters parisiens et pour le PSG, c'est que intervient au même moment, à la même époque, le fair play financier Platini, patron de l'UEFA, et les grands clubs historiques qui sont un peu la mafia du foot européen, la Juventus de Turin, le Bayern de Munich, le Real de Madrid, ceux qui gagnent tout depuis toujours, n'ont pas envie de voir émerger de nouveaux acteurs. Et donc, ils sont très fâchés de voir arriver ces nouveaux riches dans le foot que sont Manchester City, détenus par les Émirats Arabes Unis. On le voit aussi avec Red Bull qui investit dans le foot en Allemagne ou en Autriche. Enfin, en gros, ces gens qui arrivent avec de l'argent et qui peuvent acheter des joueurs et casser un peu l'oligopole tranquille des grands clubs européens historiques qui monopolisaient un peu jusque-là les titres. Hein. Donc, on met en place le fair play financier qui empêche les nouvelles équipes de dépenser trop et de perdre trop d'argent. Donc, le PSG va changer de dimension, mais le PSG ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, le Qatar ne peut pas dépenser sans compter. Il doit limiter ses pertes, ce qui veut dire que pour réussir son pari, il faut qu'il investisse et qu'il fasse grandir le club d'une façon pérenne. C'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont réaménager le stade pour augmenter considérablement les recettes de billetterie en augmentant le nombre de places réservées aux VIP. Ils refont des loges, ils font quitter les bureaux du PSG qui étaient dans le parc pour développer de la restauration, des services premium. Ils vont mettre l'accent d'une manière absolument incroyable sur le marketing avec de très, très beaux maillots, avec des partenariats avec Nike, avec Jordan, en faisant des séries illimitées. Ils font du PSG et de la Tour Eiffel qui est dessus une espèce de marque mondiale. De plus en plus, on dit plus le PSG, on dit Paris. Paris est magique. Et on va vendre des maillots pour développer les recettes. Et ils profitent aussi du fait que les recettes de télé augmentent à ce moment-là. Et quand vous additionnez tout ça, vous vous rendez compte qu'en 2011, quand le Qatar reprend le PSG, deux chiffres, les recettes de jours de match passent de 24 millions à, en 18-19, 115 millions. Un sacré choc, bing. Et les recettes commerciales, c'est-à-dire le sponsoring, les partenariats, et tout ça, on passe de 26 millions en 2010-2011 à 366 millions en 2018-2019. Et ça, ça permet de faire grimper le budget total du PSG qui est passé de moins de 100 millions à l'époque Colony à plus de 600 millions aujourd'hui à l'époque Qatar. Et c'est grâce à ça que vous pouvez vous payer un Neymar de temps en temps, un Mbappé de temps en temps, et faire grandir le club. Parce que la masse salariale aussi a considérablement bondi à la même époque. C'est la Harvard Business School qui a fait un business case, qui a étudié de très près comment le PSG est devenu une grande équipe et une grande entreprise, et qui montre que dans le même temps, les salaires sont passés de 71 millions en 2010 à 370 millions, 300 millions de plus en 2018. Donc l'argent gagné a été réinvesti dans les joueurs, parce que sans les joueurs, on n'a aucune chance de gagner.
C'est pour ça que vous écrivez, David, que rarement un club français n'aura marqué autant l'économie du ballon rond en France.
En fait, tout au travers de son parcours, le PSG a fait grandir le foot français. C'est-à-dire que c'est Laurent Perpère, un autre président, qui dit en associant le PSG à Canal+, on est passé d'un produit télévisuel dans lequel le foot était un produit rare à la télé par satellite où on peut chacun suivre son équipe de cœur dans chaque journée de championnat. Donc, via la télé, ils ont fait grandir tout le foot français. Premier club racheté par un fonds financier Colony Capital. Depuis, les investisseurs étrangers se sont multipliés. L'OM appartient à un financier américain. Et Bordeaux a été racheté. L'OGC Nice a été racheté par un milliardaire anglais. Et plein d'équipes ont été rachetées depuis par d'autres financiers directement ou via des fonds. Et aujourd'hui, le Qatar est rentré. On a vu qu'un autre émirat a investi dans le Paris FC. Et je pense que d'autres États pourraient continuer d'investir à jour dans le football français. Donc, il a à chaque fois, c'est le club qui a un peu ouvert la voie.
Alors, certains reprochent quand même au club parisien de ne pas enrichir assez le football français, notamment via les transferts. C'est un faux procès ?
Ah oui, c'est un faux procès. Enfin, si les droits télé ont fait plus 60% cette saison, c'est pas grâce aux bandes touches du RC Lens que j'adore et qui vient de remonter en première division. C'est parce que dans notre championnat, il y a aujourd'hui deux joueurs exceptionnels qui s'appellent Mbappé et Neymar. Les gens payent pour voir jouer le PSG contre toutes les autres équipes de France. Rien que par cet aspect-là, le PSG a fait grandir le foot français. Une des faiblesses du PSG aujourd'hui, c'est sa faible capacité à retenir tous les talents qui émergent en région parisienne. Donc, alors c'est vrai, ils achètent quelques joueurs en France. Aujourd'hui, ils ont les moyens d'acheter des grands joueurs à l'étranger, mais ils continuent à alimenter le mercato français. Ils ont besoin d'avoir des joueurs français. On dit que les actionnaires actuels ont envie de franciser un petit peu plus le club. Mais je pense que plutôt que d'essayer d'enrichir l'OL ou l'OM en leur rachetant leurs joueurs, notre objectif principal aujourd'hui, en tant que supporter du PSG et les managers et propriétaires du PSG, ça doit de faire en sorte qu'un Kingsley Coman qui nous fait si mal en finale de la Champions League, il a grandi en région parisienne, il a été formé au PSG, son meilleur copain, il s'appelle Kimpembe. Voilà, il n'aurait jamais dû partir. Et aujourd'hui, quand on voit les talents français qui s'exportent dans toutes les équipes, le Bayern de Munich est rempli de joueurs français. Donc, il faudrait que tous ces joueurs-là qui ont grandi à Paris trouvent leur place sur le terrain du Paris Saint-Germain. C'est ça le véritable enjeu pour faire grandir encore plus le Paris Saint-Germain dans les années qui viennent.
We are the champion, my friend. We are the champion, my friend. Voilà, jeudi 30 avril 2020, le Paris Saint-Germain est champion de France, saison 2019-2020. Chouette !
Drôle de célébration que ce titre de champion de France pour le PSG, le 9e de sa collection. Il vient rejoindre les 13 Coupes de France, un record, et les 9 Coupes de la Ligue. Autre record, le Qatar a fait rentrer le PSG dans une nouvelle dimension en France. Le club gagne des titres sur le terrain et de l'argent en dehors. 29 millions de bénéfices nets en 2019, une rareté dans le foot français. Kevin Badeau, vous êtes journaliste aux Échos. Le club parisien est aussi devenu financièrement un grand d'Europe ?
Sur le plan financier, il n'y a aucun doute. Hein, le PSG joue clairement dans la cour des grands. C'est le 5e club de football le plus riche d'Europe, selon le dernier classement du cabinet Deloitte. Le Paris Saint-Germain a généré 636 millions d'euros de revenus sur la saison 2018-2019. Et si on regarde de plus près le classement, qui a-t-il devant le PSG ? Des superpuissances du foot, le Bayern Munich, Manchester United, le Real Madrid, évidemment, et le FC Barcelone en numéro 1, avec 841 millions d'euros de revenus. Donc Paris fait bel et bien partie de ce gotha du foot.
Mais c'est une fin en soi que d'être une puissance financière dans le football ?
Alors, l'argent ne fait pas gagner des trophées, mais en tout cas, il contribue beaucoup. Quand on regarde les précédents vainqueurs de la Ligue des Champions, Liverpool, Real Madrid, Barcelone, Chelsea et Bayern de Munich, hein, qui a remporté le précédent titre contre Paris, eh bien tous font partie du top 10 des clubs en termes de revenus. Et aujourd'hui, le ticket pour espérer remporter la Ligue des Champions, ce qui est le but ultime des propriétaires qatariens du PSG, eh bien ce ticket est d'environ 400 millions d'euros de revenus. Les clubs en dessous de ce budget n'ont quasiment aucune chance d'être sacré dans cette compétition. C'est pour cela que c'est important pour les clubs de peser financièrement, car quand on a de l'argent, on s'offre les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, le meilleur staff technique et les meilleures structures d'entraînement notamment.
Le marché français, ça reste quand même un petit marché pour le PSG. Quelle est sa stratégie pour conquérir le monde du football ?
Bah alors, la France est effectivement un petit marché pour le PSG, mais l'Italie est aussi un petit marché pour la Juventus. Donc les clubs les plus prestigieux, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont au-delà de leur marché domestique. Et c'est la voie suivie par le Paris Saint-Germain depuis 2011 avec l'arrivée des Qataris. Cette stratégie s'inspire d'ailleurs d'autres clubs hein, comme Manchester United et le FC Barcelone. Donc, bah, le club de la capitale s'est internationalisé. Ça passe par des petites choses parfois, hein, des maillots portés par les joueurs et floqués en mandarin pour séduire le marché chinois, des PSG Academy pour les enfants implantés aux quatre coins du monde pour qu'ils s'imprègnent de l'ambiance de la marque pré-PSG qui s'y habitue dès le plus jeune âge. On peut aussi citer, et là c'est plus lourd, des partenariats avec des marques célèbres pour faire briller les couleurs de la capitale. On pense à la collection Nike, Jordan ou même Levi's. Tout cela peut parfois s'apparenter à une sorte de soft power du foot, mais en tout cas, ça marche et des professeurs d'Harvard ont récemment souligné hein, l'incroyable succès de cette stratégie d'internationalisation du Paris Saint-Germain. le club a tout simplement multiplié par 6 son budget depuis 2011, et c'est fort.
Gonien Daji, Shinyen Kwaibe.
Gonien Daji.
Gonien Daji.
Là, ça n'est mal, c'est je fais les anneaux pour tous la Chine.
Joyeux nouvel an chinois, on entend les joueurs du PSG dans cette vidéo du club en 2018. 3 ans plus tôt, le Barça de Xavi avait aussi célébré le nouvel an chinois en février. Le club parisien veut se battre à armes égales sur les grands marchés d'export et ce n'est pas un hasard si en mars 2018, la Ligue avait fait jouer le match Nice-PSG un dimanche à 13h pour que les supporters de Pékin, de Shanghai ou de Canton puissent voir le match en soirée. Et pour l'occasion, le nom des joueurs parisiens avait été floqué en mandarin.
Pour la première fois, un match de Ligue 1 Conforama se dispute à 13h, l'idée étant de donner un rayonnement international au championnat de France et spécifiquement en Chine, où au même moment, il est 20h.
Pour la petite histoire, le PSG avait gagné 2-1. Pour revenir aux finances du PSG, Kevin, le merchandising et les droits télé sont les deux mamelles du club ?
Oui, ce sont les deux mamelles dont le contenu alimente généreusement le compte bancaire du club parisien. Les revenus commerciaux au sens large, donc le sponsoring, le merchandising et les partenariats, sont passés de 26 à 366 millions d'euros en 8 ans. Et c'est bien le signe que la stratégie suivie par le PSG a fonctionné. Pour l'autre mamelle, les droits TV, là, la marge de progression du PSG est énorme, mais tout ne dépend pas de lui. Parce que la Ligue de football professionnel, c'est l'instance qui organise le championnat de France notamment, a vendu récemment la Ligue 1 pour plus d'un milliard d'euros par an aux diffuseurs TV, donc dont Mediapro et sa nouvelle chaîne Téléfoot. C'est historique et une partie conséquente de cette somme est versée chaque année au club de football. Par exemple, pour la saison 2018-2019, le PSG a reçu 157 millions de droits TV, aussi grâce à la Ligue des Champions. Mais en revanche, le point faible pour le PSG, pour revenir sur cette autre mamelle qui alimente le club que sont les droits TV, c'est la faible attractivité de la Ligue 1 à l'étranger. Elle se vend à 80 millions d'euros par an seulement, et c'est 20 fois moins que la première ligue anglaise.
Nasser El Khaifi disait en 2011, lors de son arrivée à la tête du club, que le PSG finira par valoir plus de 3 milliards d'euros. Combien vaut le PSG aujourd'hui ?
Eh bien, les deux tiers du chemin sont faits. Sa valeur d'entreprise frise les 2 milliards d'euros, selon le cabinet KPMG. Il faut se rappeler que le PSG a été racheté en 2011 pour 70 millions d'euros seulement. C'est dire le chemin parcouru en 9 ans. Et la performance est d'autant plus remarquable que le PSG est, à 50 ans encore, un club très très jeune. Le premier du classement, le Real Madrid, lui, a une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros. Mais lui, il a 118 ans et une histoire beaucoup plus ancienne
et
derrière
beaucoup plus
lui.
De titres de Ligue des Champions.
Et beaucoup plus de titres, 13 de mémoire. Voilà. Pour autant, cette valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros pour le PSG ne veut pas dire grand-chose. Elle voudra seulement dire quelque chose si derrière, il y a un acheteur qui formule une offre ferme du montant estimé par KPMG.
Et forcément, à plus de 2 milliards, on commence à réfléchir.
Exactement.
Merci Kevin Badeau, journaliste aux Échos, et David Barou, rédacteur en chef aux Échos. Je laisse le mot de la fin à Robin Leproux, président du PSG entre 2009 et 2011 sous l'ère colonie capitale. Paris est unique, Paris est un club romanesque et l'histoire du PSG est un roman. Il lui reste encore à écrire la plus belle page de son histoire, une victoire en Champions League. Le premier chapitre de l'édition 2021 commence ce mardi soir face à Manchester United. L'heure de la revanche a sonné pour le PSG. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.